Jusque-là, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Plus exactement, les disciples n'avaient pas compris qu'il fallait que le Christ, pas exactement Jésus, le Christ, ressuscite d'entre les morts pour être vraiment le Christ. Christ et ressuscité sont synonymes. Crois-tu au Christ signifie, est-ce que tu crois à la résurrection ? La sienne, la résurrection du Christ, et la tienne, la nôtre, et de celle de tous ceux qui nous ont quittés, que nous aimons, auxquels nous pensons, pour qui nous prions. Les disciples attendaient le Messie, le Christ. Ils attendaient un libérateur. C'est ce que disent les deux disciples, vous savez, de l'évangile qu'on appelle des disciples d'Emmaüs, qui repartent le jour de Pâques, tout tristes, de Jérusalem. Et nous qui espérions qu'il allait délivrer Israël, nous qui espérions qu'il serait la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. C'est le cantique de Zacharie que l'Église reprend chaque matin parce que c'est la plus belle synthèse du Messie, la libération de tous les ennemis, la libération de toute oppression, de toute crainte, le rétablissement de l'harmonie originelle dans la justice et la sainteté en la présence de Dieu. Voilà la mission qui était celle du Messie, une mission et un pouvoir royal. Et c'est pourquoi le titre qui lui est attribué, c'est celui de fils de David, fils de roi, roi lui-même. Les disciples savaient très exactement quelle était la mission du Messie. Les disciples savaient également ce qu'est la résurrection, le retour d'entre les morts. Alors, c'était un sujet qui était contesté même entre juifs de ce moment-là, mais c'était une notion qui était parlante, communément employée. Quand Jésus était devenu célèbre, on disait que c'était lui, Jean-Baptiste, qui était ressuscité d'entre les morts, vu les grands miracles qu'il faisait. Et même Hérode, même le roi Hérode disait, Jean-Baptiste, je l'ai fait décapiter. C'est donc qu'il serait ressuscité ? Même Hérode. Alors Christ, c'est une figure royale, tandis que résurrection, qui dit résurrection, dit pouvoir prophétique, puissance du prophète. C'était effectivement le pouvoir qui était reconnu aux prophètes, et particulièrement au plus grand d'entre eux, à Élie, le pouvoir de ressusciter les morts. Et donc, les disciples, ils étaient porteurs de ces deux réalités, mais qui étaient pour eux des réalités parallèles. Il y avait le Messie d'une part, il y avait la résurrection d'autre part. Et ils n'avaient pas compris que, jusque-là, que Jésus était le Christ, qu'il fallait associer les deux, qu'il fallait donc que Jésus, pour être le Christ, ressuscite d'entre les morts. Comment l'ont-ils compris? On dit souvent en voyant le tombeau vide. Le texte est plus précis, qui dit, pour chacun des deux, d'abord pour le disciple que Jésus aimait, qui arrive en premier, qui court plus vite, qui arrive en premier, qui n'entre pas, en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Simon-Pierre, que je suis, entre également à son tour, et il aperçoit quoi? Les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré, roulé à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont ces linges? Que sont ces vêtements? Quelle est donc cette scène qu'ils découvrent? Ce ne sont pas les linges d'un mort, mais d'un prêtre. Cette scène est une scène liturgique. Ils sont dans un sanctuaire, avec les linges qui sont posés à plat, comme la nappe sur l'autel. Autrement dit, suivant une formule que nous reprenons à chaque baptême, ils comprennent que le Christ est prêtre, prophète et roi. Roi, ils l'espéraient. Ils espéraient qu'il serait le roi d'Israël, c'est-à-dire le libérateur. Prophète, ils savaient qu'il était prophète par la puissance de ses enseignements et de ses miracles. Et voilà qu'au matin de Pâques, ils comprennent que c'est lui le prêtre de la nouvelle alliance, le seul habilité à entrer dans le Saint des Saints et à en ressortir. Voilà pourquoi nous ne savons pas célébrer la résurrection autrement que par une messe, autrement qu'en reconnaissant dans le Christ Jésus le prêtre de la nouvelle alliance, le prophète absolu à qui tous les prophètes rendent gloire, et le roi de gloire lui-même, juge des vivants et des morts. Prêtre, prophète et roi, nous le sommes devenus à notre tour par notre baptême. Maintenant, je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui êtes venus aujourd'hui à la messe pour Pâques, qui n'y allaient pas beaucoup le reste du temps. D'abord pour vous dire ma joie de nous trouver ensemble. Mais j'avais posé un jour la question à un enterrement. Est-ce que ça change quelque chose au moment de sa mort d'avoir été à la messe pendant sa vie ? Qu'est-ce que ça change au moment de la mort d'avoir été, d'être catholique, d'être croyant et pratiquant, d'avoir été à la messe pendant sa vie ? Il faut quand même qu'on se pose la question, si on vient tous les dimanches ou même si on vient de temps en temps. La mort est évidemment la même pour tout le monde. La Bible a une belle expression, elle l'appelle le chemin de tout le monde. Biologiquement, il n'y a aucune différence. Mais ce qui se passe spirituellement pour l'âme, pour chacun, évidemment, c'est très personnel, ça varie pour chacun, puisque c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et qui dépend évidemment de ce que nous avons vécu dans notre vie. C'est ça la question, qu'est-ce que ça change au moment de notre mort d'avoir été à la messe pendant sa vie ? Et il ne s'agit pas de la mort des autres, oui, ça donne une force, une espérance. L'espérance et même la certitude de les revoir. Je ne parle pas non plus de la fin d'un suspense, l'attente effectivement celle de notre vie, de voir enfin Dieu de nos yeux. Qu'est-ce que ça change au moment de notre mort d'avoir été à la messe pendant sa vie ? Eh bien, je vais vous donner quatre réponses, quatre courtes réponses, qui sont quatre conditions de notre résurrection. Le premier changement vient du fait que le croyant, ce qu'il manifeste en venant, en retrouvant les autres croyants, c'est notre appartenance à une communauté plus large que celle de notre famille ou de nos amis. Cette communauté, c'est celle que nous formons, que nous représentons ce matin, le peuple de Dieu, le corps du Christ. L'un des problèmes que nos sociétés affrontent aujourd'hui, c'est non seulement ce sentiment, mais cette attitude si abondamment partagée, d'électrons libres, de n'appartenir à personne. Ce sentiment qu'on peut qualifier de postmoderne a certainement bien des avantages, mais aussi toutes sortes d'effets difficiles, de vulnérabilité, voire de désespérance. Tandis que le croyant, les croyants que nous sommes, nous savons que dans nos vies, comme dans notre mort, nous sommes portés par la foi de l'Église, par la prière des autres. Il y a une très belle scène de l'Évangile où on amène un jour un paralytique, un homme paralysé. Ce sont quatre hommes qui l'amènent devant Jésus. Et comme il y a trop de monde, ils le passent par le toit. Ils le descendent comme pour une inhumation. Et l'Évangile dit que Jésus, voyant leur foi, la foi de ceux qui amènent cet homme, pas la foi de cet homme, leur foi, dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Dans notre vie comme dans notre mort, nous sommes portés par la foi de l'Église, par la prière des autres. Eh bien, cette parole du Christ, tes péchés sont pardonnés, nous amène à la deuxième raison qui fait que chacune de nos messes, nous commençons par dire pardon. par demander pardon. Nous en savons tous la difficulté. Reconnaître ses torts. La mauvaise foi, c'est probablement la chose du monde la mieux partagée. Eh bien, nous nous confessons au moins une fois par an, c'est ce qu'on a fait avant Pâques. Et très curieusement, nous confessons, nous demandons l'Église une fois par an, alors que l'Église nous dit que pour les petits péchés de tous les jours, ils sont pardonnés à chaque messe. Alors quand on ne fait que des petits péchés de tous les jours, c'est bien de ne pas dépasser cette dose. Pourquoi faut-il en plus, une fois par an, aller se confesser? Eh bien, je ne connais pas de meilleure réponse que l'exercice d'évacuation en cas d'incendie. Vous savez que ça sauve des vies. Eh bien, nous vérifions chaque année que nous sommes capables de demander pardon. Alors, pourquoi le faire? C'est le troisième point. Pourquoi demander pardon puisque Dieu est amour? Est-ce que nous n'irons pas tous au paradis? On ira... Malgré nous, obligés, même ceux qui ne veulent pas y aller. Mais quelle idée de Dieu on aurait s'il nous obligeait dans l'éternité à être avec lui? Dieu ne nous force jamais. Dieu nous attend, il est le père du fils prodigue, celui qui attend le retour de ses enfants. Et c'est pourquoi chaque célébration catholique, pas seulement chaque messe, chaque célébration catholique commence par écouter des textes de la Bible, de l'Évangile, par une écoute de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Celle qui nous appelle tout au long de notre vie, celle qui nous appellera au moment de notre mort, exactement comme pour Lazare. Viens dehors! Pourquoi est-ce que Lazare sort? Parce qu'il a reconnu la voix de Jésus. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ceux qui l'auront reconnu, vivront. Enfin, quatrièmement, le propre de la messe, le propre de la foi, c'est la communion. C'est un beau mot, la communion. J'espère qu'on en rêve tous. C'est le plus beau rêve de communion partout où on est, dans nos familles, dans nos relations, dans nos communautés, la communion. Eh bien, nous croyons que Dieu seul peut la donner. Dieu seul, qui est amour, peut faire l'unité entre nous. Comme Dieu seul peut pardonner les péchés, Dieu seul peut réaliser la communion. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, dit le Seigneur. Moi qui ne vais pas à la messe tous les dimanches, je la célèbre tous les jours. C'est mon rêve, je rêve que le sang de Jésus coule un jour dans mes veines. Et en y allant tous les jours, je sais à quel point j'en suis déjà loin. Ces quatre conditions de la résurrection se résument en une seule expression que vous connaissez bien, ça s'appelle « faire ses Pâques ». Affirmer par sa présence à la messe que nous appartenons bien au peuple de Dieu. Vérifier dans la confession que nous sommes capables de demander pardon. Écouter la parole du Christ pour savoir comment il nous appelle et comment il nous appelle vraiment à la liberté. Préférer la communion à toute division, à tout intérêt particulier. Préférer le corps du Christ à notre propre corps. Quoi de plus beau, mes amis, que la résurrection? Quelle joie d'être ensemble aujourd'hui pour pouvoir faire nos Pâques, faire ses Pâques, accueillir la grandeur de l'amour de Dieu.